Vous écoutez KTO Radio, il est 4 heures. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 17e. Ressouviens-toi, lecteur, si jamais dans les Alpes te surprit le brouillard, à travers lequel on voit ainsi que voient les taupes à travers leurs têtes, de quelle façon, lorsque les vapeurs humides et épaisses commencent à se raréfier, le soleil faiblement y pénètre, et que ton imagination soit prompte à se représenter comment je revis d'abord le soleil qui se couchait. Ainsi, réglant mes pas sur ceux de mon maître fidèle, je sortis de ce nuage et retrouvai les rayons déjà morts sur les rivages bas. Ô imaginative, qui tellement quelquefois nous sépare des choses du dehors, qu'autour de nous sonneraient mille trompettes, point ne les entendrions qui te meut, si ne t'excite l'essence, te meut une lumière qui s'informe dans le ciel, ou de soi-même, ou par le vouloir de celui qui en bas l'envoie. De l'impie dont la forme se changea en celle de l'oiseau, qui a chanté le plus se délecte, j'eus la vision interne et mon esprit en soi se replia si profondément qu'aucune chose du dehors n'y trouvait d'accès. Puis me tomba dans la haute fantaisie un crucifié superbe et farouche, et tel il se mourait. Près de lui était le grand Assuérus, son épouse Esther et le juste Mardochée, également intègre dans le dire et dans le faire. Et cette image s'étant brisée d'elle-même, comme une bulle à laquelle manque l'eau où elle se forma, dans ma vision surgit une jeune fille, pleurant et disant « Ô reine, pourquoi par colère as-tu voulu ne plus être? Tu t'es tuée pour ne pas perdre Lavinia, et maintenant tu l'as perdue. Elle-même suis-je, moi qui pleure, mère, ta mort avant celle d'un autre. Comme se rompt le soleil quand subitement une nouvelle lumière frappe les yeux fermés et rompu ce débat avant de mourir tout à fait, ainsi s'éteignit en moi l'imaginer, sitôt que frappa mon visage une lumière bien plus vive que celle à laquelle nous sommes accoutumés. Je me tournai pour regarder d'où elle venait, lorsqu'une voix dit « Ici l'on monte ». De toute autre pensée, elle me détourna et m'inspira un si grand désir de voir qui me parlait que rien ne l'aurait pu calmer que son objet même. Mais comme il advient devant le soleil qui éblouit notre vue et se voile de son propre éclat, ainsi ma force ici défaillait. Celui-ci est l'Esprit divin qui, sans être prié, nous indique le chemin pour aller en haut et se cache lui-même dans sa lumière. Avec nous, il fait comme l'homme fait avec soi, car qui voit le besoin et attend qu'on le prie, malignement déjà se met sur la négative. Maintenant que nos pieds obéissent à une si haute invitation, tâchons de monter avant que la nuit se fasse, après on ne le pourrait jusqu'au retour du jour. Ainsi dit mon guide, et lui et moi nous tournâmes nos pas vers un escalier, et dès que je fus sur le premier degré, je sentis près de moi comme un mouvement d'aile, et sur ma face passer un souffle, et j'entendis « Beati Pacifici », ce qui signifie « Bienheureux les pacifiques », qui point n'ont en eux de mauvaise colère. Déjà, au-dessus de nous si élevés, étaient les derniers rayons qui précèdent la nuit, que de plusieurs côtés paraissaient les étoiles. Ô ma force, pourquoi ainsi m'abandonnes-tu ? Disais-je en moi-même, sentant que mes jambes s'affaiblissaient. Nous étions là où l'escalier cesse de monter, fixe comme le navire qui aborde la plage. J'écoutais un peu si j'entendrais quelque chose dans le nouveau cercle, Puis je me tournai vers mon maître et dis « Mon bon père, dis quelle offense expie-t-on dans le cercle où nous sommes. Si les pieds s'arrêtent, que ne s'arrête point ton discours. » Et lui à moi, « L'amour du bien séparé du devoir qui le règle ici se restaure. Ici est châtié le rameur paresseux. Mais pour que tu entendes mieux encore, écoute-moi. » Et tu retireras quelques bons fruits de notre retard. Mon fils, commença-t-il, ni le Créateur ni la créature jamais ne furent sans amour, ou naturel ou procédant de la raison, et tu le sais. Le naturel toujours est exempt d'erreur, mais l'autre peut errer dans le vice de l'objet, ou par trop peu de force. Tandis que vers les premiers biens il est dirigé, et que dans les seconds, il se mesure bien lui-même, il ne peut être la cause d'un mauvais plaisir. Mais quand il se tord vers le mal, ou qu'avec plus ou avec moins d'ardeur qu'il ne doit, il court dans le bien, contre son Créateur agit la créature. De là, tu peux comprendre que l'amour en vous doit être la semence et de toute opération qui mérite une peine. Or, l'amour, ne pouvant détourner la vue du bien de son sujet, tout être est à l'abri de sa propre haine. Et parce que nul ne peut être conçu subsistant de soi et séparé du premier être, celui-ci jamais ne saurait être haï. Donc, si mes divisions sont exactes, le mal qu'on aime est le mal du prochain. Et cet amour sur votre limon naît de trois manières. Tel, en opprimant son prochain, espère l'excellence, et pour cela, seul il souhaite que de sa grandeur il soit jeté bas. Tel craint de perdre pouvoir, faveur, honneur, renommée, si un autre s'élève, et d'autant plus il s'en attriste, qu'il aime plus le contraire. Tel, d'une injure, paraît tant s'irriter qu'il devient avide de vengeance, et celui-ci, force est qu'il cherche le mal d'autrui. Cet amour triforme ici-dessous se pleure. À présent, je veux parler de celui qui court au bien d'une manière opposée à l'ordre. Chacun, confusément, conçoit un bien où l'âme se repose et le désire, et chacun s'efforce de l'atteindre. Si un lent amour vous attire vers lui, pour le voir ou pour l'acquérir, les tourments de cette corniche vous purifient, pourvu qu'ait précédé un juste repentir. Il est un autre bien qui ne rend pas l'homme heureux, il n'est point la félicité, il n'est pas la bonne essence de tout bien, ni dans son fruit, ni dans sa racine. L'amour qui trop s'y abandonne, au-dessus de nous se pleure dans trois cercles. Mais comme la raison montre qu'il est triple, point n'en parle, afin que par toi-même tu cherches. Chant 18e. À son discours, avait mis fin le grand docteur, et attentivement il regardait sur mon visage si je paraissais content. Et moi, que pressait encore une nouvelle soif, je me taisais au dehors et au dedans je disais « Peut-être qu'en trop demandant je le fatigue. » Mais ce père vrai, qui s'aperçut du timide vouloir qu'en moi je renfermais, en parlant, me donna la hardiesse de parler. D'où moi, Maître, tant sa vise m'a vu dans ta lumière que je discerne clairement tout ce que montre et trace ta raison. Je te prie donc, cher doux père, de m'enseigner quel est cet amour à quoi tu réduis toute bonne opération et son contraire. Fixe sur moi, dit-il, les regards pénétrants de l'esprit. Et te sera manifeste l'erreur des aveugles qui se font guide. L'âme, créée pour aimer, se porte vers tout ce qui plaît, sitôt que le plaisir l'éveille à l'action. De ce qui existe réellement, votre puissance perceptive attire l'image, et la déploie au-dedans de vous, de sorte que l'âme se tourne vers elle, et si vers elle étant tournée, elle s'y incline, ceci est la nature que le plaisir unit à vous par un nouveau lien. Et comme le feu se meut en haut, en vertu de sa forme, qui le porte à monter là où plus il subsiste dans sa propre matière, ainsi ayant perçu, l'âme entre en désir, qui est un mouvement spirituel, et jamais ne se repose qu'elle n'ait joui de l'objet aimé. Tu peux maintenant voir combien la vérité est cachée à ceux qui affirment que tout amour est louable en soi. Il se peut que bonne en paraisse toujours la matière, mais toute empreinte n'est pas bonne, bien que la cire soit bonne. Tes paroles et mon esprit qui les suit, répondis-je, m'ont découvert l'amour, mais de cela même naissent en moi de nouveaux doutes. Car si vient du dehors ce qui détermine l'amour, et que l'âme n'ait point d'autre moteur, qu'elle aille droit ou qu'elle dévie, ce n'est pas son mérite. Et lui à moi, tout ce qu'ici voit la raison, je puis te le dire pour ce qui est au-delà, attends Béatrice, car c'est sujet de foi. Toute forme substantielle distincte de la matière et unie avec elle a en soi une vertu spécifique, laquelle n'est sentie que par son opération et ne se manifeste que par son effet, comme la vie dans la plante par le vert feuillage. Ainsi, d'où vient l'intelligence des premières notions et le sentiment des premiers objets que l'âme appète, l'homme ne le sait, car ils sont en vous comme dans l'abeille l'instinct de faire le miel. Et ce premier désir n'a rien qui mérite louange ou blâme. Or, afin qu'à elle viennent s'unir toutes les autres, innée en vous est la vertu qui conseille et qui doit garder le seuil du consentement. Celle-ci est le principe qui vous rend capable de mériter selon qu'il accueille et choisit les bons et les mauvais amours. Ceux dont la raison a été au fond ont reconnu cette liberté innée et ils ont ainsi conservé la morale dans le monde. D'où, suppose que tout amour qui, au-dedans de vous, s'enflamme y naisse, nécessairement en vous est la puissance de le contenir. Par libre arbitre, Béatrice entend la noble vertu, au soin de t'en souvenir si elle t'en parle. La lune, qui avait retardé son lever presque jusqu'au milieu de la nuit, semblable à un bassin embrasé, nous faisait paraître les étoiles plus rares et à l'encontre du ciel, elle parcourait la route que le soleil enflamme, alors qu'à son déclin, ceux de Rome le voient entre les Sardes et les Corses, et cette noble ombre, par qui plus renommée et Piétola que la cité mantouane, avait déposé le fardeau dont je l'avais chargé. Pour moi, mes questions ayant reçu des réponses claires et simples, j'étais comme un homme qui, à demi endormi, rêve, mais des gens qui, derrière nous, se hâtaient, dissipèrent subitement cette somnolence, et comme jadis l'Ismène et l'Azope voyaient de nuit courir sur leur bord une foule ardente quand les Thébains avaient besoin de Bacchus, ainsi par ce que je vis de ceux qui venaient, dans ce cercle presse le pas celui qu'emporte un bon vouloir et un juste amour. Ils nous eurent bientôt joints, car en courant allait toute cette grande troupe, et devant elle deux criaient en pleurant. Marie, avec hâte, courut à la montagne, et pour subjuguer Herda, César investit Marseille et courut en Espagne. Vite, vite, que par peu d'amour point ne se perde le temps, criaient tous les autres qui suivaient. Le zèle de bien faire fait reverdir la grâce. Ô Jean, en qui maintenant une vive ferveur compense peut-être la négligence et le retard que par tiédeur vous avez mis à accomplir le bien, celui-ci qui vit, et certainement je ne vous mens pas, veut aller en haut pourvu que le soleil nous éclaire. Dites-nous donc où est le plus près passage. Ainsi parla mon guide, et l'un de ses esprits dit « Viens derrière nous, tu trouveras l'entrée ». De nous mouvoir si désireux nous sommes que nous ne pouvons nous arrêter. Ainsi, pardonne, si te paraît rudesse l'effet de la justice en nous. Je fus abbé de San Zeno de Vérone, sous l'empire du bon Barberousse, de qui, avec douleur, parle encore Milan. Est-elle a déjà un pied dans la fosse que bientôt fera pleurer ce monastère et qui s'attristera d'y avoir eu puissance, parce que son fils, difforme de tout le corps et d'âme pire, et qui mal naquit, y tient la place du vrai pasteur. Je ne sais s'il en dit plus ou s'il se tut, tant il nous avait devancés, Mais cela j'entendis, et il me plut de le retenir. Et celui qui en tout besoin m'avait secouru dit, « Tourne-toi par ici, et vois-en deux venir en gourmandant la paresse. » Derrière tous les autres, il disait, « Moururent ceux pour qui la mer s'ouvrit, avant que le Jourdain vît ses héritiers. » Et ceux qui, jusqu'à la fin, ne supportèrent pas la fatigue avec les fils d'Anchise et se plongèrent eux-mêmes dans une vie sans gloire. Puis, quand ces ombres furent si loin de nous qu'on ne les pouvait plus voir, en moi entra un nouveau pensée duquel divers autres naquirent, et de l'un à l'autre tant j'ondoyais que dans le vague mes yeux se fermèrent et la pensée se transforma en songe. Chant 19e. Alors que la chaleur du jour, vaincue par la terre ou quelquefois par Saturne, ne peut plus attiédir le froid de la lune, quand les géomanciens voient avant l'aube leur fortune majeure surgir dans l'Orient par un chemin qui longtemps ne reste pas obscur, m'apparut en songe une femme bègue aux yeux louches, courbée sur ses jambes torses, mutilée des mains et de couleur blafarde. Je la regardais, et comme le soleil ranime les froids membres engourdis par la nuit, ainsi mon regard délia sa langue, puis en peu d'instants, la redressa tout entière et colora comme le veut l'amour son visage défait. Lorsqu'ainsi elle eut le parler libre, elle se mit à chanter de telle sorte que je n'eusse pu qu'avec peine détourner d'elle mon attention. « Je suis, chantait-elle, je suis la douce sirène qui, au milieu de la mer, égare les mariniers, tant de mouir le plaisir est grand. De sa route errante, j'attirais Ulysse à mon chant, qui s'accointe avec moi, rarement me quitte si pleinement je le satisfais. » Sa bouche ne s'était pas encore refermée quand soudain près de moi apparut une femme sainte, pour la confusion de celle-là. « Ô Virgile, Virgile, qui est celle-ci ? » vivement disais-je. Et lui venait, les yeux fixés seulement sur cette femme pudique, il prenait l'autre et, fendant ses vêtements, par devant il la découvrait et me montrait le ventre, la puanteur qui s'en exhalait me réveilla. Je tournai les yeux et le bon Virgile, « Trois fois au moins, dit-il, je t'ai répété, lève-toi et viens. Cherchons l'ouverture par où tu puisses entrer. » Je me levai. Déjà le jour remplissait tous les cercles du sacré mont et nous allions les reins tournés vers le soleil nouveau. Et le suivant, je portais le front comme qui l'a chargé de penser et qui fait de soi un demi-arc de pont lorsque j'entendis « Venez, ici l'on passe. » d'un parler si doux et si affectueux que de pareil on n'en entend point dans ce séjour mortel. Ouvrant ses ailes, semblables à celles du cygne, celui qui ainsi nous avait parlé nous dirigea en haut entre les parois du rocher. Sur nous ensuite, il agita les pennes, déclarant « Heureux ceux qui luguent, parce que leurs âmes seront consolées. Qu'as-tu ? Qu'à terre seulement tu regardes ?» me dit mon guide, ayant tous deux l'ange un peu au-dessus de nous. Et moi, si soucieux vais-je, à cause de la nouvelle vision qui tant m'obsède, que je ne puis cesser d'y penser. Tu as vu, dit-il, cette antique magicienne qui seule désormais au-dessus de nous se lamente. Et tu as vu comment l'homme se dégage d'elle. Que cela te suffise, et de tes talons frappe la terre. Tourne les yeux vers le leur que te montre le roi, éternel dans ses orbes immenses. Tel que le faucon, qui d'abord regarde ses pieds, se tourne ensuite au cri et s'élance par le désir de la pâture qui devant l'attire, tel devins-je, et tel aussi que se fend le rocher pour donner passage à qui monte, allège jusque là où commence le circuit. Lorsque, libre, je fus dans le cinquième cercle, j'y vis des gens qui, gisant à terre, la face en bas, pleuraient. Adaesit pavimento anima mea, ce qui signifie « Mon âme s'est attachée au pavé », je les entendais dire avec des soupirs si profonds que l'on distinguait à peine les paroles. Ô élu de Dieu, dont l'injustice et l'espérance rendent les souffrances moins dures, dirigez-nous vers les hauts degrés. Si vous venez sans avoir à craindre d'être ici gisant et voulez trouver le chemin le plus court, que votre droite soit toujours en dehors. Ainsi pria le poète, et ainsi il lui fut répondu d'un peu au-devant de nous. Et moi, par le parler, je discernais celui qui était caché, et je tournais les yeux vers mon Seigneur qui, avec un signe de contentement, m'accorda ce que demandait le regard du désir. Quand je fus maître de disposer de moi, je m'approchai de cette créature que ses paroles m'avaient fait remarquer, disant « Esprit, en qui le pleuré mûrit, ce sans quoi tu ne peux retourner à Dieu, suspends un peu pour moi ton plus grand souci. Qui fus-tu et pourquoi vos dons sont tournés en haut? Dis-moi, si tu veux que je t'obtienne quelque chose, là d'où je suis parti vivant. » Et lui à moi, « Pourquoi veut le ciel que vers lui nos dos soient tournés? Tu le sauras. Mais auparavant, sias quod ego fui successor petri, ce qui signifie « sache que je fus successeur de Pierre ». Entre Siestri et Chiaveri descend une belle rivière, de laquelle originairement ma race tire son nom. Durant un mois et un peu plus, j'éprouvais combien pèse le grand manteau à qui veut le préserver de la fange. Paraîtrait une plume tous les autres fardeaux. Ma conversion, hélas, fut tardive. Mais quand je fus fait pasteur romain, je connus la vie menteuse. Je vis que là ne s'apaisait point le cœur et que, dans cette vie, on ne pouvait monter plus haut, ce pourquoi de celle-ci en moi s'enflamma l'amour. Jusque-là, misérable et séparé de Dieu, fut mon âme tout avare. Maintenant, comme tu vois, j'en suis ici puni. Ce qu'opère l'avarice se manifeste ici dans la position renversée des âmes qui se purifient. Et le monde n'a point de peine plus amère. Comme nos yeux, fixés sur les choses terrestres, ne se tournèrent point en haut, ainsi la justice ici les attache à terre. Et comme l'avarice éteignit en nous tout amour du bien, par quoi se perd l'opéré, ainsi la justice ici nous tient resserrés, liés et pris des pieds et des mains, et tant qu'il plaira au Seigneur juste, nous resterons étendus immobiles. Je m'étais agenouillé et je voulais parler, mais comme je commençais s'étant aperçu par lui seulement de mon acte respectueux, « Pourquoi, dit-il, ainsi te courbes-tu ? » Et moi à lui, « Parce que m'empresse ma droite conscience à cause de votre dignité. « Redresse tes jambes et lève-toi, frère, répondit-il. Ne te trompe point. Comme toi et comme les autres, d'une seule puissance, je suis le serviteur. Si cette parole évangélique « Neque nubent » tu entendis jamais, bien peux-tu voir pourquoi ainsi je parle. Va maintenant. Je ne veux pas que tu t'arrêtes davantage, car ta présence gêne le pleuré avec lequel je mûris ce que tu as dit. J'ai là une nièce nommée Alagia, bonne de soi, pourvu que par l'exemple, notre maison ne la rende pas mauvaise. Elle seule m'est restée là. »
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
Vous écoutez KTO Radio. KTO Radio.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler armée, patrie, engagement. Padré, bonjour père, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes le père Yannick Lallemand. Vous avez, la saison dernière, avant l'été, écrit ce livre, Padré, mémoire d'un aumônier militaire, paru aux éditions Talendier. Alors vous allez nous parler un petit peu... de ce que vous avez voulu raconter dans ce livre et puis évidemment de cette vocation assez singulière de Padré. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
Ah, je vais prendre un texte que j'aime beaucoup parce que j'ai fait une dizaine d'années au Tchad. J'ai servi dans le désert pendant ces 10 années et je me sentais très proche du père de Foucault, bien sûr. Quand je suis parti au Tchad, j'avais toujours cette petite phrase du père de Foucault, « Sache que ce soir, il pourrait arriver de mourir martyr. » Parce que mon choix de partir au Tchad, ça ne dépendait pas de moi, mais de l'Esprit Saint qui me demandait de tout quitter pour partir évangéliser, continuer l'Église qui... grandissait énormément au Tchad. Donc, je suis parti là-bas, après avoir donc laissé mon ministère d'aumônier auprès des soldats. Voilà. Et là-bas, ceux qui travaillaient un peu avec moi m'appelaient le curé du désert. C'est pour ça que je reste très fidèle au père de Foucault. Et puis, c'est pour moi un exemple qui m'a peut-être poussé à répondre oui à cet appel du ciel, du bon Dieu, pour aller auprès de ces Tchadiens qui étaient les premiers chrétiens, puisque l'église du Tchad, à cette époque, n'avait que 50 ans d'existence. Voilà. Je vais donc, si vous voulez, prendre cette prière que je lis bien sûr tous les jours avant de m'endormir. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que c'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père, ainsi soit-il. Voilà cette petite image près de ma table de nuit.
Merci Père. Bon, ça m'étonne pas trop de vous, hein, d'attaquer avec ce choix de texte. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu quand même nous situer d'où vous venez, qui vous êtes? Vous êtes né où?
Ah, je suis Nivernais du côté maternel, puisque mon grand-père était avocat, et je dis qu'il était avocat en particulier des religieuses de Sainte Bernadette du couvent Saint-Gildard à Nevers. Et je suis toujours très heureux chaque année avec les anciens légionnaires maintenant de participer au pèlerinage militaire international cette année à la mi-mai où nous retrouvons cette présence de Bernadette qui 18 fois a eu cet honneur de parler à la Vierge Marie et d'entendre cette petite phrase en béarnais, je pense. Que soy era immaculada conception. Voilà, cette fête de l'Immaculée Conception, Notre-Dame, c'est quand même une figure de notre religion qui est apparue tant et tant et tant de fois à des petits Français, des petites Françaises. Notre pays, c'est un pays qui est choyé par la Vierge Marie, qui régulièrement, elle apparaît pour nous encourager à devenir meilleurs, à suivre le chemin de lumière que nous montre son Fils, Jésus. Et on en est tellement loin de le suivre en ce moment. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles. Toute cette jeunesse qui était présente aux cendres, il y a déjà quelques mois, mais ces cendres ont été une révélation que la jeunesse, elle avait besoin d'autre chose que les écrans, que tout ce qu'on essaie de leur donner comme nourriture trop matérielle. Ils ont besoin d'autre chose et ils retrouvent maintenant le chemin de l'Église. Et nous savons qu'au moment de Pâques, ils seront très très nombreux. Et au pèlerinage militaire international, chaque année, nous baptisons plus de 50 catéchumènes. Chaque année, 50 catéchumènes en plus de l'année passée. C'est pour dire que l'Esprit Saint travaille et que nous devons avoir confiance, nous devons avoir le sourire, comme c'était le sourire de la Vierge Marie à la petite Bernadette.
Alors vous avez grandi toujours avec cette, on va dire, spiritualité mariale dans la famille ?
Mais si vous venez dans notre maison, dans notre petite chapelle, vous verriez un peu partout le portrait de Bernadette, parce que nous avons fait nos premières communions grâce à l'enseignement que nous avons reçu des sœurs de Sainte Bernadette. Pour nous, c'est quand même quelqu'un qui nous a protégés. Et lors du bombardement de Nevers en 1944, mon père était en captivité, mais ma mère était seule avec 5 petits gamins. Et quand il y avait une alerte, nous descendions dans un fossé que ma mère avait fait creuser avec une tôle ondulée par-dessus pour nous protéger des bombardements. Et à chaque fois que nous descendions à toute vitesse l'escalier pour rejoindre notre coin, eh bien, nous descendions avec Notre-Dame de Lourdes, avec la statue de la Vierge qui nous a protégés, puisque de même que le couvent Saint-Gildard a été protégé, nous aussi nous avons été protégés parce que tout autour c'était la ruine.
Votre père était militaire. Il s'est retrouvé dans des régions d'Algérie avec des responsabilités assez importantes. On sait que l'Algérie a vécu une indépendance qui n'a pas été forcément bien vécue dans toutes les familles, notamment les familles de militaires sur place. Tout ça, ça a un peu bousculé aussi la vie de votre famille et peut-être un petit bout de votre enfance quand même. Vous vous retrouvez dans cette famille à avoir une sorte de double appel, plutôt vers l'armée et plutôt vers la prêtrise ?
Non, vers la prêtrise, c'est sûr. Mais comment choisir ? Entre un moine contemplatif, entre un missionnaire, partir à l'autre bout du monde, la paroisse, ou peut-être militaire. Ce n'était pas la vocation première. Mais mon frère aîné, jeune officier parachutiste, a été tué en Algérie, et ça a bousculé toute notre famille. Et être moine à cette époque, dans les années 60, j'étais ordonné prêtre fin 63.
Oui.
Donc, le fait de partir au loin comme missionnaire ou devenir moine, c'était peut-être, à mes yeux, mettre beaucoup de tristesse pour mes parents, qui avaient perdu donc un fils. Au service de la France en Algérie.
Puis vous aviez quand même un petit peu la bougeotte. Vous étiez très très sportif.
Oui,
et vous aviez besoin d'action aussi.
Aussi.
D'ailleurs, quand vous racontez les premières années où vous étiez, j'imagine, vicaire ou bien...
Tout à fait.
Voilà, voilà. C'était une expérience où vous aviez un peu besoin de mouvement et de bouger à ce moment-là. Hein.
Oui, c'est pour ça que je faisais partie de l'équipe du foot du village de Beaumont-Saint-Cyr. Mm-hmm. J'ai passé 6 ans avec... chaque été, 300 jeunes, j'organisais beaucoup de... Avec l'accord de mon curé, j'organisais des camps, et souvent des camps d'un bon petit niveau, mmh. en vélo, avec tout notre barda sur le porte-bagages, et je faisais des étapes entre 150 et 200 km par jour. Je savais que le soir, j'allais être tranquille. pour bien dormir et faire la prière voilà. du soir.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce moment où vous avez ressenti un appel à la prêtrise ?
C'était dans les années où j'avais 11, 12 ans. Je ne sais pas pourquoi notre père avait mis les 4 aînés pensionnaires dans un collège privé à Saint-Lazare, à Autun. Et lui-même avait été affecté à Autun. Alors qu'il y avait l'école militaire à Autun, mais lui nous a mis dans un collège religieux. Bon, mes frères ont fait 2 ans, 3 ans, ils sont partis. Moi, je suis resté pendant 5 ans. C'était un régime assez difficile. Je peux vous dire que le matin, on avait, c'était de la soupe plutôt que du café au lait ou du chocolat.
On est en 40...
On était en 40, 46, 47, 46. Voilà. Oui. Mm. Donc, collège religieux, c'est là où j'ai bien senti qu'il y avait un appel. Et qu'on... J'ai demandé à mes parents de quitter ce collège au bout de 5 ans. J'en avais un petit peu assez, loin de la famille. Mon père n'était plus là. Donc j'ai voulu rejoindre la famille. Et là, après, j'ai eu une vie d'adolescent dans les lycées de la République, dans les lycées mixtes, ou là où on connaît des jeunes filles, voilà. On s'attache à des amis, voilà. Et... Bah, à un moment donné, il a fallu choisir, oui. soit répondre à l'appel du Seigneur, oui. soit continuer bah, cette vie d'adolescente avec des adolescentes, mm-hmm. donc très agréables.
Oui, vous parlez notamment d'une, qui aurait pu être votre épouse.
Qui aurait pu être mon épouse, parce que j'étais très attaché mm-hmm. à elle, puis très sportive mm-hmm. aussi. On se retrouvait sur... très très souvent pour le ski ou autre, voilà.
Et vos amis d'ailleurs pensaient que vous alliez vous marier tout simplement.
Exactement.
Eh ben non.
Eh ben non, mais non, il a été le plus fort, comme j'aime le dire.
Alors, oui. votre engagement, est-ce que vous pourriez, c'est pas évident, hein, mais un peu nous synthétiser votre vocation et votre engagement comme padré dans l'armée. C'était quoi votre rôle ?
Alors, synthétiser 40 années de, oui, auprès des soldats, pour moi, l'aumônier, c'est celui qui se fait très proche, le plus proche possible de ceux vers lesquels il est envoyé. Mmh. Mais l'armée, c'est immense. Mmh. Donc, c'est pas un petit groupe qui veut parler à un homme qui sort de l'ordinaire parce qu'il n'a pas de grade. Mm-hmm. Hein, il ne fait pas partie de la hiérarchie. Mm-hmm. Il n'a pas le droit de récompenser, de punir. Voilà, il est l'autre, hein, mais qui est toujours là, présent, et qui veut être au plus proche de ses soldats, et puis donner une belle vision de ce qu'est le prêtre qui veut être sportif, qui est capable de les suivre dans leurs activités. Mm-hmm. Voilà.
Donc vous disiez présent mais pas pesant.
Tout à fait.
Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire que j'étais présent partout dans les activités.
Donc saut en parachute, ski...
Oui, tout ça. Voilà.
Et à eau, voilà. Plonger aussi pendant qu'on y est ?
Plonger ?
Oui.
Oui, j'ai fait des sauts en mer... pas mal, et des sauts en mer de nuit aussi, mmh. avec les nageurs de combat d'Ajaccio, et ces hommes un peu extraordinaires.
Bah c'est ce qu'on a pendant tout votre livre, hein. Il y a vraiment une grande partie où on vous suit, dans cet engagement qui n'est pas simplement « Hey les gars, je suis prête, si vous avez besoin, je suis là, hein, vous me retrouvez dans la salle là-bas ». Non, vous êtes avec eux, vous montez
avec
dans l'avion.
Dans les choses très simples de leurs activités, et je suis là pour tout le monde, puisque moi je partage le repas, la ration, le lendemain, si le général m'invite, je suis avec le général, voilà. L'homme de tous, l'homme de l'écoute, l'homme du bien, l'homme de Dieu, l'homme du sourire, j'ai essayé de travailler avec le sourire, malgré certains jours, c'était plutôt des larmes qui coulaient de mes yeux, plutôt qu'un sourire à donner, mais étant dans la hiérarchie militaire, sans y être, je devais donner l'exemple. Et même dans les moments difficiles, surtout à Beyrouth, c'est à moi que revenaient les dernières paroles d'espérance, il n'y a que moi qui parlais. Donc je devais dire que la vie ne se termine pas à cet enterrement, à cet attentat, la vie continue et on doit continuer de se donner, d'accomplir la mission et en particulier d'être auprès de ceux qui nous sont confiés, les cadres avec leurs soldats, leur donner, comme ils disent, la pêche, hein, les aider à aller toujours de l'avant. Et l'aumônier, eh bien, il fait partie de ceux qui encouragent ces jeunes à aller toujours de l'avant. Mais à un moment donné, j'essaie toujours d'aller un peu plus à droite pour annoncer Jésus-Christ, qui est le but de ma mission.
Alors peut-être et qui est aussi la source.
Qui est la source.
Parce qu'il faut être disponible aussi face à la mort, à ces gens qui se trouvent à 3000 km de leur femme qui est en train d'accoucher. Ces choses-là, la vie, quoi.
La vie, effectivement.
Mais la vie dans son côté un peu tranchant saignant.
Ben oui, mais celui qui revêt l'uniforme, qui accepte de signer un contrat avec comme soldat, il sait très bien qu'un jour ou l'autre, le sacrifice fait partie du contrat. Même si on n'y pense pas, on n'en parle pas tous les jours, mais on le vit, à travers les chants de tradition, tous les récits, les fêtes sont nombreuses à la Légion étrangère, comme dans la armée ordinaire des petits Français. Il y a beaucoup de traditions.
Et père, vous n'avez jamais eu de crise de foi devant la barbarie humaine? Il n'y a pas des moments où un coup, deux coups, trois coups, enfin ça n'arrête pas? Il n'y a pas un moment où vous avez dit, hey, mon Dieu, t'es où, tu fais quoi?
Mais si, à Beyrouth, plusieurs fois quand même, je lui ai demandé.
Il vous a répondu.
Pourquoi Seigneur?
Qu'est-ce qui vous a répondu?
Il m'a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Je suis passé par la croix. Et la croix, c'est le passage obligé. Vous nous l'avez bien dit, Seigneur, plusieurs fois, qu'il fallait passer par ce stade de la souffrance avant la résurrection et la vie éternelle. Et ça, vous y pensez tout le temps. Donc, mais quand même, j'ai interpellé le bon Dieu plusieurs fois. Pourquoi, Seigneur, vous avez permis toute cette horreur que j'ai vécue, tous ces jeunes qui n'étaient venus que pour rendre service à ce peuple qui nous appelait au secours, ce peuple libanais, qui est une terre, la terre de Jésus-Christ, c'est la terre bénite. Le Christ est allé jusqu'à Tyr et Sidon. Il était certainement avec ses apôtres et avec la Vierge Marie et un petit groupe de femmes. Il fallait bien préparer le bivouac, il fallait préparer la nourriture. Donc le Christ est allé jusqu'au sud Liban, cette terre qui était belle, splendide, qui était devenue une terre d'horreur. Voir tous ces jeunes qui étaient pour moi mes gamins, mes petits, mes amis, avec lesquels j'ai partagé tant d'heures dans l'avion, tant de marches dans les Pyrénées, dans les Landes, en Espagne ou dans d'autres pays, je les ai accompagnés d'une manière toujours très proche. Quand ils se faisaient breveter parachutistes, j'étais là avec eux pour faire tous les sauts, le saut nuit. Mais j'étais là aussi pour me réjouir, parce que ces gamins, ils avaient découvert qu'ils étaient capables de tellement d'autres choses, de belles choses, de se dépasser. Sortir de l'avion, c'est un peu... c'est pas ordinaire, c'est pas naturel. Eh bien, ils y étaient arrivés, ces gamins. parce qu'ils faisaient confiance à leur cadre, grâce à la présence de l'aumônier. Voilà. Et on se réjouissait après, parce que ils étaient fiers de porter le béret rouge ou le béret vert des parachutistes. Ils étaient fiers peut-être de revenir au pays et de dire à la famille, mais voyez, j'ai réussi, je suis pas plus bête qu'un autre, et je vais aller de l'avant, parce que on va continuer. Oui, c'était de belles choses que je vivais, mais j'ai vécu des choses difficiles aussi avec les familles des morts de Beyrouth. Et chaque année, nous nous réunissons dans un endroit où il y a l'un de nos jeunes qui a été enterré. Au mois d'octobre, il y a presque un an, au mois d'octobre 2024, nous étions à Anglette, autour de la tombe du capitaine Hospital, qui était l'adjoint du capitaine Thomas. Et donc, chaque année, on essaie, les familles, celles qui restent, les blessés, les rescapés, de se rassembler et de prier, de dire merci à ces jeunes qui ont versé leur sang pour un pays autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alors, toutes ces paroles, à chaque enterrement, je les faisais ressortir, parce que la parole de l'aumônier, dans ces cas-là, reste une parole très, très actuelle, très vivante. Et je pense toujours à la petite phrase de Sainte Thérèse. Non, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et ça, il faut le répéter aux gens, c'est plein d'espérance.
Alors, on arrive donc au moment des questions. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît?
Ben, 10, alors.
Quelle phrase ou moment de l'Évangile vous donne de l'espérance ?
Moi, celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le serviteur de tous. Et j'ai toujours en tête, chaque jour, pour moi, c'est le Christ qui lave les pieds de ses apôtres. Le geste de l'esclave, vraiment du petit, c'est celui qui regarde le maître de bas en haut. Alors que lui, le maître, normalement, il regarde de haut en bas. Mais non, il a choisi le service. Alors, j'ai essayé de vivre ce service dans tous les domaines de mon sacerdoce, toujours en vivant au plus près de nos soldats, en les remerciant de tout ce travail pour la France, la fille aînée de l'Église, qu'ils font chaque jour. C'est pour laquelle ils s'entraînent chaque jour. Je trouve que c'est extraordinaire. Et d'avoir vécu certaines opérations de soldats, je les ai vues, comment ils travaillaient, comment ils accomplissaient leur métier. Vraiment, c'est toujours de l'admiration et je les remercie.
Est-ce qu'à nouveau, vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît?
Non, on va passer au 1.
On va au 1?
Ouais.
D'accord. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous?
Je donnerais plus de temps au côté contemplatif. J'allais très souvent chez les bénédictins de Gaussan, près de Narbonne, et après à Ganagobi. Et je ne peux plus y aller maintenant parce que j'ai quelques ennuis de santé qui m'empêchent de manger au rythme rapide des moines. Donc je les ai un peu abandonnés, mais j'avoue qu'il me manque beaucoup ces moments de contemplation, hein, au pied du tabernacle, sachant qu'il est là. Que quand j'étais au Tchad, il m'a accueilli, il m'a écouté, il m'a encouragé. C'est lui qui m'a protégé d'un tas d'obstacles. Vraiment, la providence était là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'homme, le Dieu du tabernacle, le Saint-Sacrement, me suivait dans mes périples dans le désert. Et j'ai vécu des choses extraordinaires, que c'était bien lui qui me protégeait pour que j'accomplisse vraiment la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. J'espère avoir fait partie de ces humbles ouvriers.
Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, Padré, mémoire d'un aumônier militaire, aux éditions Talendier. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Retrouvez cette émission sur notre site www.kateotv.com. Partagez-la autour de vous. Bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast et à la semaine prochaine.